Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Le 20 janvier 2014, après presque 10 années de voyage dans l'espace interplanétaire, ponctué de 2 survols d'astéroïdes, la sonde européenne Rosetta sera tirée de sa longue hibernation pour un rendez-vous très attendu avec la comète Churyumov-Gerasimenko. Rosetta rejoindra la comète en août 2014, l'étudiera sous toutes les coutures et y déposera finalement un petit robot baptisé Philae à la mi-novembre. Alors quels sont les objectifs scientifiques de la mission Rosetta? Comment les ingénieurs ont-ils conçu le tout premier atterrisseur cométaire de l'exploration spatiale? Et quelle est exactement l'implication de la France dans cette ambitieuse mission? Ce sont quelques-unes des questions que j'aurai le plaisir d'aborder avec notre invité Philippe Godon, chef de projet au CNES de la mission Rosetta. Philippe Godon, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est à quelques semaines maintenant du réveil de Rosetta. Est-ce que vous avez des nouvelles de la sonde? Quelles sont les dernières nouvelles? Où se trouve-t-elle, par exemple?
Non, on n'a aucune nouvelle d'elle, mais nous savons où elle se trouve parce que la mécanique spatiale nous dit où elle doit se trouver et qu'il n'y a pas de raison qu'elle change d'orbite. Donc, elle est sur sa trajectoire. On sait qu'elle est en direction de la comète. Et que si on ne faisait aucune manœuvre d'orbite, on passerait quand même déjà très près de la comète.
Donc tout ça a été calculé évidemment au lancement, j'imagine. Il y a déjà eu des manœuvres de correction faites pendant les 10 ans qui nous séparent de son lancement?
En effet, beaucoup même, mais deux simplement très importantes qui ont eu lieu, de grosses phases de freinage qui ont eu lieu en janvier et février 2011. Sinon, le lanceur Ariane 5 au lancement nous a mis sur la trajectoire quasiment idéale et nous sommes passés d'un survol de planète à un autre tout à fait de façon idéale. Et donc il y a eu des petites corrections mais qui n'ont fait que amener la sonde exactement à l'altitude idéale prévue. Voilà. Mais c'est quelques mètres par seconde seulement par rapport à, par exemple, 700 mètres par seconde, la grande poussée qui nous amène vers la comète. Là.
Alors là, donc, en ce moment, elle dort, donc c'est assez étonnant. Le 20 janvier, vous la réveillez. Qu'est-ce qui se passe si elle ne se réveille pas tout de suite? Il y a un plan B?
Oui, il y a heureusement des possibilités de la réveiller. Premièrement, c'est elle qui se réveille. C'est-à-dire qu'elle a une horloge à bord et normalement, le 20 janvier à 10h TU, temps universel, elle doit s'éveiller d'elle-même et nous envoyer un bip qui nous dit « je suis là, je suis réveillé, je suis prêt à recevoir vos commandes ». Ça ne se passe pas de façon idéale, bien sûr, il va falloir chercher l'origine des problèmes. Et ils peuvent être de plusieurs ordres, des plus dramatiques si le logiciel de vol est complètement en panne, ou par exemple la perte aussi de l'orientation de la sonde serait embêtante. Mais dans chaque cas, il y a des possibilités de rattrapage. Et ça, c'est le rôle de l'ESOC en Allemagne, à Darmstadt, de commander la sonde pour la ramener de son mode dit d'hibernation actuel au mode normal de travail. Actuellement, par exemple, elle tourne sur elle-même pour rester face au soleil. Et l'objectif est de la fixer par rapport en attitude par rapport aux étoiles.
Juste
pour dire que ça va prendre une semaine, tout ça. Hein. Même de façon nominale, on va prendre premièrement du temps. Il faut bien analyser les données avant de lancer les télécommandes. Donc le réveil où on dit 10 heures du matin, c'est simplement la première information qu'on a.
C'est à partir de la sonde. Voilà, on se lève très lentement.
Exactement. On se réveille lentement.
Alors, elle va rejoindre donc la comète Churyumov-Gerasimenko à, je crois, 5,3 unités astronomiques, c'est-à-dire 5 fois la distance Terre-Soleil. Alors, c'est important, c'est au-delà de l'orbite de Jupiter. En même temps, 10 ans pour aller là-bas, c'est un peu long, non?
C'est un peu long parce que, pour le moment, on n'a pas la technologie pour y aller rapidement. En fait, pour être lancé sur l'orbite qu'il nous faut pour rattraper la comète, il nous aurait fallu un lanceur 3 fois plus puissant que l'Ariane 5 actuel, qui est le lanceur le plus puissant. Donc il nous fallait ces assistances gravitationnelles un de Mars et trois de la Terre, pour pouvoir rattraper la comète et se trouver sur son orbite. En effet, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir une vitesse relative à la comète très très faible. Quand on va se mettre en orbite autour, on aura une vitesse de l'ordre de 1 mètre par seconde, 4 km heure. Donc c'est des vitesses relatives très très faibles, alors que la vitesse absolue de la comète, et donc de la sonde par rapport au Soleil, elle, est de l'ordre de 20 km par seconde, quoi, 50 000 km heure. Donc voilà le problème de base, et la seule solution, c'était de faire plusieurs boucles d'élan dans le système solaire pour atteindre la comète.
Donc un survol de la Terre, vous avez dit, et trois de Mars.
Non, c'est le contraire.
C'est le contraire.
Un de Mars et trois de Terre. Dans l'ordre, il y a eu un premier, on l'a lancé donc depuis la Terre, elle est revenue vers la Terre une première fois. C'était en février 2005, il me semble. Après, elle est passée vers Mars. On l'a envoyé de ce premier survol de la Terre vers Mars. Puis elle a resurvolé la Terre en novembre 2007, donc deuxième survol de la Terre, et troisième survol de la Terre en novembre 2009. Celui-là a servi à la fois pour lui donner encore plus d'élan et aussi pour la sortir du plan de l'écliptique. En effet, Terre, Mars gravitent pratiquement dans le même plan, et le plan de la comète, lui, est incliné à 8 degrés. Donc il fallait la sortir du plan de l'écliptique pour pouvoir rejoindre la comète.
Alors, quel est l'intérêt de se poser sur une comète ? J'imagine que ce n'est pas uniquement pour l'exploit technique que vous avez lancé, Rosetta. Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre avec cette mission ?
Il y a deux grands objectifs scientifiques dans la mission Rosetta. Le premier, qui veulent conforter deux théories. La première théorie, c'est que les comètes, comme les astéroïdes, sont les briques de base de la formation des planètes. Et donc, on connaît maintenant relativement bien les planètes. On veut aller voir les briques de base en question. Donc, il y a eu déjà quelques survols d'astéroïdes, quelques survols de comètes extrêmement courts et qui ne sont pas suffisants. Donc, l'objectif là est d'aller voir un corps primitif tel qu'il a été formé il y a 4,5 milliards d'années. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième grand objectif, la deuxième grande théorie, c'est que ces comètes contiennent des molécules complexes qui seraient à l'origine de la vie dans le système solaire, et en particulier sur Terre, parce que ces comètes formées d'eau à plus de 80% ont pu former une bonne partie des océans de la Terre. Et elles auraient amené ces molécules complexes avec elles. Et les conditions auraient été telles sur Terre, il y a 3 milliards et demi d'années, que des molécules encore plus complexes se sont formées, des acides aminés, etc., de l'ARN, et on a la première molécule qui s'auto-reproduit, qui se serait formée dans les océans. Et là, c'est le début de la vie. Donc on va, sur ces comètes, rechercher ces molécules extrêmement complexes.
Donc la préhistoire de la vie pourrait se trouver en quelque sorte sur Churyumov-Gerasimenko.
Exactement.
Alors on va venir plus en détail tout à l'heure sur la phase d'atterrissage et ce que fera le robot, donc Philae, sur cette comète. Mais d'abord, vous avez dit que la sonde Rosetta va se mettre en orbite autour de cette comète. Comment on va l'étudier ? J'imagine qu'on va la photographier sous toutes les coutures, mais il y a quand même 11 instruments sur l'orbiteur. Qu'est-ce qui est prévu comme expérience ?
Oui. Comment dire ? C'est une nécessité même pour le lander ce qu'on appelle l'orbiteur, la sonde qui va rester en orbite, fonctionne et étudie la comète avant qu'on aille se poser dessus. En effet, c'est une mission spéciale puisqu'on ne connaît pas l'objet vers lequel on va. Bien sûr, on a quelques éléments, on a sa taille approximative, on a un peu sa période de rotation. Mais à part ça, on ne connaît rien de cette comète, de ce noyau cométaire sur lequel on va aller atterrir. Donc la première chose à faire, c'est l'observer. Et de juillet 2014 à novembre 2014, c'est ce que nous allons faire. Donc au début, nous sommes encore loin. On l'aperçoit très faiblement. Mais ça nous permet aussi de voir le niveau de dégazage, d'étudier le dégazage. Et puis quand on se rapproche, on commence à subir sa gravité. Donc on va apprendre à connaître sa masse. Ça, c'est une grosse inconnue de la mission. Et une fois en orbite, là, on va essayer de savoir sur quel site on va aller atterrir. Alors, quels sont les instruments pour pouvoir faire tout ça? En effet, il y en a 11. Il y en a 4 dits remote sensing. Ça veut dire qu'ils vont observer de loin le noyau cométaire. Et ça dans 4 longueurs d'onde. Donc, dans le visible, dans l'infrarouge. Dans le visible, on voit bien la forme. On peut étudier aussi la poussière soulevée par le dégazage. Après, l'infrarouge. Dans l'infrarouge, on va observer surtout la texture du sol, la température du sol. Dans l'ultraviolet, c'est surtout le dégazage de l'eau qu'on veut observer. Et puis, dans les micro-ondes, dans la longueur d'onde des micro-ondes, là, on va analyser la température du sol et aussi le dégazage en CO et CO2. Donc, avec déjà ces 4 instruments, on a une très bonne connaissance de loin du noyau et de son dégazage. Après, nous avons un instrument qui est consacré à l'analyse du gaz, mais ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire autour de la sonde. On récupère du gaz qui se trouve autour de la sonde et on l'analyse. Donc ça, c'est Rosina. Je ne vais pas citer les autres, Osiris, Virtis, Ultraviolet, Alice et Miro. Là, il s'agit de Rosina pour l'analyse du gaz. Après, nous avons 3 instruments pour l'analyse de la poussière, Cosima, Giada et Midas. Et un instrument qui est destiné à analyser le plasma, c'est-à-dire la composition ionique de l'atmosphère autour du noyau.
Est-ce que la France est impliquée, le CNES en particulier, dans cette partie de la mission?
Le CNES a financé, a aidé aussi techniquement les laboratoires à développer une partie de ces instruments. Donc on a un rôle important, mais le CNES a surtout participé au lander, à la partie lander, qu'on va peut-être décrire un peu plus en détail après.
Alors, vous parliez de dégazage, mais effectivement, donc on se pose sur un noyau. Effectivement, quand on dit qu'on se pose sur une comète, c'est un abus de langage, c'est sur le noyau de la comète que l'on va se poser. On pense qu'à cette distance du Soleil, là, on a parlé de 5,3 unités astronomiques, on sera peut-être un peu plus près quand l'atterrisseur se posera. Il y a un dégazage déjà ?
Il semble, et on est là pour aller voir, qu'il y ait tout le temps un petit dégazage minimum, parce qu'en effet, la comète a été capturée système solaire interne, donc proche du Soleil. Elle dégazerait en CO2 tout le temps. Par contre, le dégazage le plus important de la comète se ferait, mais toujours inconditionnel, sous forme de vapeur d'eau, et celle-ci se déclencherait aux alentours de 3 unités astronomiques, c'est-à-dire à 450 millions de kilomètres du Soleil. C'est pourquoi on cherche à aller atterrir sur la comète avant cette distance, au-delà de 3 unités astronomiques. Parce qu'après, on serait sérieusement perturbé par le niveau de dégazage.
Qu'est-ce qui peut se passer
lors de l'atterrissage.
C'est-à-dire que quoi, les jets de gaz pourraient pousser la sonde?
Exactement. À la limite, ça pourrait rééjecter la sonde hors du champ de gravité de la comète, si le niveau de dégazage est très, très important. Ce qui compte, en fait, c'est le rapport gravité, donc masse, avec le niveau de dégazage. Et les deux paramètres ne sont pas connus pour le moment. Donc il faut qu'on aille l'observer pour... quand atterrir.
On voit bien que c'est une spécificité de cette mission. Effectivement, quand on se pose sur une planète, on n'a pas tellement ces soucis de dégazage. Et là, on a quand même un autre problème, qui est le problème de la gravité, parce que j'imagine qu'une comète, bon, c'est un petit objet, donc la force de gravité d'une comète n'est pas gigantesque. Comment on se pose sur une comète en réalité ?
Eh bien, pour ce qui concerne Philae, le lander, en fait, c'est un atterrissage passif, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on les positionne dès le départ et séparer de l'orbiteur sur l'orbite idéale. Et après, nos calculs nous amènent sur la comète, normalement au niveau du sol.
Donc c'est plutôt un mouvement où les deux objets vont se croiser et se rencontrer.
Voilà, exactement, c'est un petit peu ça. Et le moment le plus crucial, c'est le moment où on atterrit, si on peut dire, où on s'amarre à la comète, parce qu'en étant en microgravité, on risque le rebond, de rebondir en plus mal et ne pas se retrouver sur nos pieds. Donc il faut tout de suite s'arrimer. Alors pour ça, on a des ancres dans les pieds et on a des harpons sous le lander. Et on a en plus un propulseur qu'on déclenche dès que deux pieds ont touché le sol pour plaquer notre atterrisseur sur le sol. Donc dans l'ordre, ce propulseur est déclenché, les ancres sont sorties mécaniquement et les harpons sont lancés dans le sol pour arrimer le train d'atterrissage à la comète.
Donc c'est Moby Dick en fait ce que vous êtes en train de nous décrire là.
Ah oui,
c'est... On va harponner une comète finalement, voilà. On ne va pas atterrir sur une comète, on va harponner
la comète.
C'est plutôt
voilà.
Comme ça qu'il faut
exactement.
Voir les choses. Alors, harponner une comète, très bien, mais est-ce qu'on sait au minimum quelle est la texture du sol d'une comète ? On parle souvent de boules de neige sale, alors moi j'imagine, je ne sais pas si on est sur de la poudreuse typiquement, est-ce que votre harpon servira à grand chose ? Comment ça a été géré cet aspect des choses ?
C'est une inconnue, et je crains qu'il reste même inconnu après 3 ou 4 mois d'observation en orbite. On aura beaucoup de mal à connaître exactement la densité locale et la dureté du sol avant d'atterrir. C'est vraiment l'atterrissage qui nous permettra de caractériser, et puis un certain nombre d'instruments aussi sur le lander qui permettront de caractériser vraiment la dureté du sol. C'est une grande inconnue. Nos collègues américains auraient tendance à nous dire qu'on s'enfoncerait beaucoup, d'après eux. Et nos collègues allemands qui ont fait l'étude des pieds de l'atterrissage nous garantissent qu'eux, on devrait rester en surface, quelle que soit cette dureté du sol.
Ils ressemblent à quoi les pieds de Philae ?
Ils ne sont pas très larges. Ce sont des semelles rondes, deux semelles rondes pour chacun des pieds. Ils sont 3 pieds. Et cette surface a été calculée pour être suffisante dans de grandes conditions de dureté du sol. Pour moi, je l'imagine un peu comme de la barbe à papa qu'on aurait mis dans un congélateur, et donc qui serait dur en surface, mais pas si dur que ça, on pourrait quand même s'enfoncer. C'est quand même 100 kg le lander qui a de l'ordre aussi de 4 km/h au moment de l'atterrissage, donc il peut potentiellement s'enfoncer. Mais c'est vraiment une grande inconnue du projet.
Alors, on va espérer qu'il ne s'enfonce pas trop quand même.
Non, ouais.
Il a beaucoup de caméras, je crois, ce lander. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les images qu'on peut attendre envoyées par Philae ?
Oui. Donc, il y a les caméras, je pense que vous parlez des caméras extérieures au lander. Il y en a 7, donc disposées sur chacune des faces de l'atterrisseur Philae. Ça va nous permettre, si tout marche après cet atterrissage qui est un peu risqué, d'avoir 360 degrés autour du lander. Mais en fait, sur une des faces, nous avons 2 caméras, ce qui permet de faire de la 3 dimensions sur cette face-là. On va voir à peu près 60 degrés d'horizon en 3 dimensions. Et si le landing gear continue à marcher correctement, on tournera le lander sur lui-même et on pourra faire 360 degrés
panoramique 3D.
Panoramique 3D. Wow. Mais pas immédiatement après l'atterrissage.
En couleur ou en noir et blanc ?
Non, c'est en noir et blanc, c'est une seule longueur d'onde.
J'ai aussi noté qu'il y avait un instrument pour creuser le sol. Ça veut dire qu'évidemment, vous aviez dit que Rosetta allait analyser le sol, il faut creuser. C'est quoi ? C'est une pelle ? C'est une perceuse ?
Oui, ça ressemble plutôt à une perceuse qui aurait, au bout de son foret, quelque chose qui permet de récupérer un échantillon tout petit, même pas 1 cm3, et de le ramener à bord de l'atterrisseur. Cet échantillon est mis dans un four et observé avec des microscopes en infrarouge et dans le visible, ce qui va déjà nous donner une idée de sa texture, de voir la poussière par rapport au reste. Et dans un deuxième temps, cet échantillon va être chauffé dans ces fours et envoyé dans des colonnes chromatographiques, dans des spectromètres de masse qui vont analyser soit le rapport isotopique, c'est l'instrument Ptolémée, soit les molécules complexes qu'on recherche.
Le rapport isotopique nous donne quel genre d'informations
Bien, de savoir un petit peu l'histoire du système solaire, parce qu'on a les rapports isotopiques sur Terre, sur la Lune, etc. Donc, Churyumov-Gerasimenko venant de, peut-être du nuage dehors, de très très loin, on saura déjà si c'est une comète du système solaire. Ça sera déjà la première information. Parce qu'on a dans nos théories la possibilité que les systèmes solaires puissent échanger même les comètes entre elles, ou entre eux.
Ça pourrait être une comète extrasolaire, en quelque sorte.
À la limite, oui.
C'est possible.
Et ça, nous le saurons grâce à cette étude du rapport isotopique.
Alors, vous avez cité donc pas mal d'instruments. Il y a beaucoup d'instruments qui ont été développés en France ou en partenariat avec les laboratoires français et le CNES. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la France, à quel niveau elle est impliquée dans cette mission?
Oui, nous avons sur le lander deux PI-chips, c'est-à-dire deux grandes responsabilités. J'ai décrit l'instrument, c'est celui des caméras panoramiques et du microscope qui s'appelle Chieva, dont le PI est Jean-Pierre Bibring de l'IAS. Et nous avons aussi l'instrument CONCERT du laboratoire de planétologie de Grenoble, dont le PI est Vlodek Kaufmann. Cet instrument a pour objectif d'analyser la structure interne de la comète. Donc le lander émet une onde dans les longueurs de FM. Et en fait, cette onde va traverser la comète et sera reçue par l'orbiteur qui se trouve à l'opposé, sur son orbite, à l'opposé de la comète. Et on va donc faire une sorte de radiographie de la comète avec cet instrument. Donc ça, c'est très important. Ce sont les deux grandes responsabilités françaises, mais nous avons un tas d'autres participations scientifiques, que ce soit sur le lander, mais encore peut-être plus sur l'orbiteur, parmi les instruments que je vous ai cités tout à l'heure. En particulier l'observatoire de Meudon, le LPCE2E d'Orléans, l'IRAP à Toulouse. Quasiment tous les laboratoires français participent à cette mission.
Alors il va bien falloir un moment que Philae meure, entre guillemets. Est-ce qu'on a une idée de la fin? Quel sera le destin de ce petit robot déposé sur une comète?
Je dois dire que c'est ce qu'on étudie le moins sur Philae, la fin de vie de Philae. Parce que les autres étapes avant sont encore bien plus importantes. Mais on pense que l'atterrisseur va mourir de chaud. Et en effet, il a été conçu pour fonctionner lors de son atterrissage à 3 unités astronomiques. À cette distance-là, il fait chaud. Après, on va continuer à fonctionner, mais la comète se rapprochant du Soleil, le lander va se rapprocher aussi du Soleil, et à un moment donné, on ne sait plus faire sortir la chaleur en trop à l'intérieur de l'atterrisseur, et l'électronique va en souffrir. Donc voilà comment on voit la fin.
Mourir de chaud sur un glaçon.
Sur un glaçon, tout à fait.
Bon, bien, écoutez,
et ce que je n'ai pas dit, c'est en combien de temps on pense 4 à 6 mois après l'atterrissage.
Donc ça nous amène à
mars-avril 2015, sachant qu'on passe au périhélie avec la comète en août 2015. Donc on n'est pas si loin que ça du périhélie. Voilà.
Très bien, mais écoutez, je crois que nous allons suivre évidemment, enfin je suis sûr d'ailleurs qu'à Ciel Espace nous suivrons très attentivement cette mission Rosetta. Merci Philippe Godon d'avoir accepté notre invitation sur Ciel Espace Radio et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.